Je vous invite ce matin à aller dans le psaume 44 et je commence ce matin, pendant que vous êtes en train de chercher le passage, en vous disant que j'aimerais commencer en saluant l'église baptiste évangélique de Chibougamau. Et là, les gens disent, pourquoi tu salues, on est ici à l'église de Trois-Rivières, pourquoi tu salues Chibougamau? Parce que l'église de Chibougamau nous écoute. Vous ne saviez pas ça, hein? C'est nouveau. On a commencé un partenariat et une relation avec l'église de Chibougamau qui n'a pas de pasteur, c'est une église avec une vingtaine de personnes. Et l'église, en tout cas, un long processus, mais on est rentré dans une relation où ce que l'église là-bas écoute nos prédications une semaine décalée. Et on le travaille beaucoup sur l'aspect qu'on puisse diffuser en direct pour pouvoir avoir un ministère auprès d'églises qui sont en région, qui n'ont peut-être pas de pasteur pour différentes circonstances. Et qui sait comment loin ça va nous amener cette occasion-là de pouvoir diffuser sur l'Internet en direct et de peut-être pouvoir participer à d'autres ministères que le Seigneur pourra pouvoir dans le futur. Alors, je salue l'église de Chibougamau et ceux qui me connaissent savent que pour moi, ça c'est spécial. Vous savez pourquoi? Je suis un Chibougamois. Hein? Je suis né là-bas et j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 18 ans où je suis parti en 1993 et donc beaucoup de gens là-bas que je connais mais que j'ai pas l'occasion de voir et donc je les salue et je me sens très privilégié ce matin en plus d'ouvrir la parole de Dieu et de partager la parole avec mon église où ce que j'ai grandi mon enfance et que j'ai beaucoup de bons et de merveilleux souvenirs. Ce matin, on est dans le psaume 44. Avant de le mentionner, le psaume 44 aussi, je voulais mentionner quelque chose de bénissant ce matin. On a des nouveaux membres de l'Église qui sont ajoutés, des tout petits bébés. Vous avez-tu remarqué, on a des nouveaux parents, ça fait 3-4 semaines qu'ils ont un bébé là, tout frais, tout chaud, là, qui sort du four. Le four, c'était maman, là. Puis on voit des grands-mamans, puis je vois des visages là, fiers. Il y a de quoi être fier, hein? Regardez le beau bébé de Benjamin et Amanda. Et de Caroline et Jean-François. Voulez-vous vous lever avec les petits bébés, là? Hein? Regardez ces beaux petits bébés-là. Mais, hein, yes, c'est de quoi d'être fier, hein? Chaque naissance, c'est un miracle. C'est merveilleux, une naissance. C'est extraordinaire, c'est émouvant. Et c'est un gage de vie et un cadeau que l'Éternel nous fait. Que le Seigneur vous bénisse avec ces beaux bébés. On est très heureux pour vous, très fiers de vous. Et que le Seigneur bénisse vos bébés parmi nous. Il nous donne aussi beaucoup de joie à voir grandir. Donc, on est dans le psaume 44. Et le psaume 44, je priais le Seigneur dernièrement. Vous savez que je viens de compléter une série. Je vais commencer une prochaine série seulement en septembre. Et entre-temps, j'étais dans la lecture personnelle dans les psaumes. Et je demandais au Seigneur, quel psaume tu veux que je partage, Seigneur? Et le psaume 44, initialement, me frappait, mais je ne sais pas pour quelle raison initialement, mais je sais que c'était de Dieu. Et en fouillant et en creusant dans le psaume 44, j'ai compris, vous allez comprendre pourquoi ce matin, ce passage est vraiment pour nous, et je crois qu'il veut être une bénédiction pour chacun de nous ce matin. Et en lisant ce psaume, une des premières pensées qui nous vient, surtout en lisant certaines paroles du psaume, il nous rappelle une histoire du Nouveau Testament avec Jésus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, ou ben c'est sûr que vous en rappelez, c'est tellement une histoire connue, les disciples qui sont dans la barque dans une tempête. Hein, on connaît cette histoire, on l'a vu dans les films de Jésus, et c'est aussi des passages très préférés aussi qu'on entend souvent parler pour prêcher, contrairement au psaume 44, que j'ai jamais entendu une prédication dessus, et si vous lisez un livre sur les psaumes favoris, ben soyez sûr que vous ne trouverez pas le psaume 44 dans les psaumes favoris. Vous trouvez plein d'autres psaumes, mais pas le psaume 44. Je l'ai vérifié, j'en ai plein à la maison, pour voir s'il y en avait un qui avait trouvé. Non, c'est pas là. Et c'est d'autant plus mon plaisir de vous le présenter, parce que dans ces psaumes, qui sont pas les psaumes préférés, se trouvent des pépites d'or. Et les mots qui sont dans ce passage et la teneur nous rappellent beaucoup cette histoire de Jésus qui dort dans la barque. Hein? Et évidemment, comme être humain, et quand on lit cette histoire-là, on se pose la même question que des disciples. Mais qu'est-ce que Jésus peut faire à dormir dans une barque en pleine tempête? On s'entend, là, c'est pas les gros bateaux paquebots là, qu'on peut avoir, là, que tu sens à peine, puis que ça t'endort. Là. Non, non, des petites barques. Il y avait de l'eau qui rentrait tellement que des pêcheurs expérimentés étaient inquiets. Puis eux autres, ils étaient en train de sortir de l'eau de la barque pendant que Jésus dormait sur un oreiller. Et la question qui vient inévitablement, il dit, « Seigneur, tu t'en fous qu'on est en train de périr? » Mais qu'est-ce que tu fais à dormir? Et on retrouve des paroles similaires dans le psaume qu'on va lire ce matin. Seigneur, réveille-toi, tu dors, Seigneur, c'est quoi tu fais? Et si on y pense vraiment, probablement il y a des périodes de notre vie, de votre vie que vous avez vécue, et vous êtes posé la question sincèrement si le Seigneur dormait. Et souvent dans des situations où ce qu'on est indigné d'avoir l'impression qu'on a demandé quelque chose de légitime et d'un cœur pur au Seigneur, et il ne semble rien se passer. Et les disciples étaient là en train de voir Jésus. « Mais qu'est-ce que tu fais, Jésus? C'est quoi ça fait? On dirait que tu te fous de nous autres. Ça te dérange pas qu'on est sur le bord de crever? Tu dors, toi! Tu dors dans la barque! C'est quoi cette affaire-là? » Et c'est le sentiment que vivaient les disciples, et c'est le sentiment qu'on retrouve aussi dans le psaume qu'on va lire. Et chose merveilleuse, Jésus se lève dans la barque. Et on dit que Jésus rabroua la tempête. C'est le mot qu'il a repris. Il lui a parlé. Et le calme est venu. Et ses disciples, on dit, il y avait une grande tempête, il y a eu un grand calme après ça. Et ses disciples ont été, « Oh! Mais c'est qui? Ça n'a pas d'allure. » Jésus, est-ce qu'il s'en foutait de ses disciples? Pourquoi Jésus dormait? Hein? Pourquoi Jésus se permettait de dormir dans une situation comme ça? Est-ce que le fait que Jésus dort veut dire que ça ne dérange pas que ses disciples soient inquiets, qu'ils ont peur de mourir? Ou est-ce que ça manifeste simplement le fait que, dans le fond, étant Dieu Tout-Puissant, le Seigneur n'a pas à s'inquiéter, il est au contrôle de tout. Et même notre inquiétude, et ce qui cause notre inquiétude, et pour lequel on a même prié, le Seigneur ne sait pas qu'il s'en fout, mais il est en contrôle. Mais il y a plein de choses qui nous échappent. Il y a plein de choses qui nous échappent, qui permettent qu'on vive. Et on n'a pas de réponse. Puis il n'y a pas donné de réponse dans ce texte-là comme tel. Il n'y a pas dit pourquoi. On peut observer différentes choses. Et le texte d'aujourd'hui nous donne un peu de viande à manger dessus à ce sujet-là. Et je ne vous dis pas que ce matin, vous allez trouver toutes les réponses au sujet que je vais aborder dans ce psaume-là, parce que rarement un texte se veut écrit pour répondre à tout les questions liées à ce sujet-là. Les psaumes sont, comme le dit bien Bono dans un de ses derniers, dans le dernier CD qu'il a fait, les chants et les poèmes sont une manière d'exprimer d'une manière exagérée nos souffrances. Ça nous permet de les grossir. Parce qu'on met des images, on met des rimes, on met toutes sortes de choses pour les faire sentir ces émotions-là de détresse. Et on retrouve dans le psaume qu'on va lire ces expressions-là. De vraies personnes, d'une vraie communauté, de vraies douleurs, de vraies détresses, qui sont mises dans des images, mais qui expriment bien aussi comment on se sent. Et souvent, les psaumes sont comme ça. Ils mettent des mots dans notre bouche de des choses qu'on vit, qu'on ressent, qu'on ne saurait pas comment décrire. Et là, le psaume nous met des mots dans la bouche, qui expriment un peu ces émotions-là. Il nous amène à travers un processus en parlant, en l'expliquant, pour s'approcher de Dieu dans notre relation. Comment? Bien, on va le faire ce matin en regardant ce psaume. Et j'espère le faire avec vous, pas juste pour étudier ce psaume-là, mais vous montrer aussi comment, en regardant un psaume comme celui-ci, ou n'importe quel autre psaume, c'est quoi les pas qu'on doit faire pour tirer tout le jus qu'on peut d'un psaume? Parce que des fois, on peut lire un psaume, puis, bon, j'ai lu un psaume. Ça vous arrive? J'ai lu un psaume un matin, mais demande-moi pas c'était quoi, là. Il chialait, me semble, dedans. De manière, il disait que Dieu était bon. Mais qu'est-ce qui... Souvent, on les lit, puis on s'y attarde pas. Et il y a des petites choses qu'on peut faire qui nous aident à... Mais il faut prendre du temps pour le faire. Et ce matin, je vous donne un peu des petites étapes, justement, pour tirer tout le jus qu'on peut d'un psaume, en même temps que je vous partage ce beau psaume et le message que Dieu a pour nous dans ce psaume. Allons-y directement. On va le lire et on va en profiter après pour réfléchir sur ce qu'il a à nous enseigner. Lisons ensemble. Alors, je lis à partir d'une version second, chapitre 44, verset 1. « Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. » Au jour d'autrefois. On se rappelle ces belles histoires, ces beaux souvenirs, ces choses que nos parents nous racontent que tu as fait. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Et en parlant de eux, les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leurs bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Et toute cette délivrance-là que Dieu faisait permettait de voir la lumière de sa face qui est en train de les servir, en train de les conduire. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Donc, il vient de louer Dieu pour ce qu'il avait fait dans le passé. On a entendu ces histoires-là, on trouve ça merveilleux, mais là, maintenant, fais-le pour nous au présent. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, au verset 7. Ce n'est pas par mon épée qui me, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Et là, peut-être vous avez dans votre Bible un petit mot qui dit « pause ». Peut-être qu'il y en a qui ont un petit mot hébreu qui est écrit là, qui est écrit « Selah ». Hein? C'est pas toujours clair qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose qui est lié dans la poésie. Et souvent, c'est parce qu'il y a un changement de ton. Dans le psaume. Des fois, ça aide à trouver la structure du psaume. Mais ici, la section termine là, c'est comme il y a une pause. Et là, il y a un changement de ton qui s'opère. Et on va lire le changement de ton parce que c'est pas facile. Cependant, c'est juste que, après avoir dit tout ça, tu nous repousses. Tu nous rejettes. Tu nous couvres de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi. Et ceux qui nous haïssent s'enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations, Seigneur. Tu vends ton peuple pour rien. En plus, on vaut pas cher la viande. Tu ne l'estimes pas à grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Sont comme les Juifs, hein, ce monde-là. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage à la voix de ceux qui m'insultent et m'outragent, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, celui qui cherche à avoir la justice. Changement de ton, au verset 10, hein? C'est où? Là, c'est différent, là. D'un côté, ce qui s'est passé dans le passé, puis Seigneur, on veut que tu le fasses au présent, mais on peut comprendre pourquoi il nous demande au présent, c'est parce que là, verset 10 à 17, c'est tough, et on a l'impression que ça s'intensifie à mesure que tu avances dans les versets, le langage qui est utilisé et la teneur des mots qui sont là pour dire comment c'est dur. L'extérieur, mais en plus, à l'intérieur, les sentiments de honte, d'être déshonoré, que tout le monde se fout de moi, il rit de moi. C'était une risée, c'était une honte pour tout le monde. Et là, il réfléchit dans sa tête, puis il essaie de comprendre. Tout cela nous arrive, sans que nous t'ayons oublié. On ne t'a pas oublié, Seigneur. Parce que des fois, tu nous accusais d'avoir oublié, d'avoir commencé à prendre des dieux de statue, mais on t'a pas oublié. Sans que nous ayons violé ton alliance. Seigneur, on n'a rien fait de mal. Mais nous autres, on fait une pause rendue. On dit, t'es-tu sûr que t'as vraiment rien fait? Nous autres, quand on entend ça, c'est ce qu'on fait, hein? On est tous des pécheurs. T'as sûrement fait un péché. T'as sûrement un péché qui traîne si le malheur te frappe. Et là, vous entendez peut-être la voix des amis de Job, hein? Mais on est aussi des amis de Job, nous, souvent, hein? Et là, quand on entend ça, quelqu'un qui se justifie, qui dit, pourtant, j'ai pas désobéi au Seigneur, j'ai rien fait de mal, je comprends pas pourquoi j'ai de l'air à être jugé, puis que Dieu me tasse, là, puis là, nous autres, il y a une petite voix qui dit, ouais, mais il y a peut-être un péché caché, sûrement, ce frère-là. Cette sœur-là, à la tête, il y a un péché caché dans sa tête, là, puis sûrement que c'est ça. On va y revenir. Et tout de suite, là, il y a ce sentiment-là. Là. Mais essayez de le repousser, cette idée-là. On va essayer de juste le croire, ce qu'il nous dit, le psalmiste qui est là, puis essayer de le prendre au mot. Okay? Tout comme on va essayer de prendre la personne qui est devant nous, on va essayer de le prendre au mot, puis juste, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'entende, puis que je comprenne, puis que je fasse? Là? Parce que si on commence à sonder les intentions de chacun, on finit plus. Hein? Alors, jusqu'à preuve du contraire, on donne le bénéfice du doute. Et on prend ce qu'il nous dit comme étant vrai. Notre cœur ne s'est point détourné. Nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. Et il fait de l'introspection. Il a pris le temps, tu vois, de réfléchir là, sur son comportement. Y a-t-il des choses qui traînent? Il s'analyse pour voir, y a-t-il quelque chose que je me suis finalement pelleté de la chenoute dessus, là, tu sais, que peut-être je récolte ce que j'ai semé pour que nous écrase, pour que tu nous écrases. Et là, remarquez ici, là, le mot « tu », il revient quand même plusieurs fois. Là. Le « tu » au début, là, qui faisait des belles choses pour nous, là, ben là, c'est le « tu » qui me donne la chenoute, là. On va le dire comme c'est, là. Parce qu'il dit là, « tu nous écrases dans la demeure des chacals ». Peut-être qu'il y en a qui ont le mot « dragon » ici. Hein, le vrai mot qui est là, dans le fond, c'est le mot « dragon ». Et puis quand vous voyez le mot « dragon » dans votre Bible en passant, là, nous on dit « ah, c'est là, comme, coudonc, c'est des histoires d'enfants, des dragons ». Mais c'est parce que le mot « dinosaure », il n'existait pas avant, il y a 200 ans. Fait qu'avant ça, ce qu'on appelle un dinosaure aujourd'hui, c'était un dragon. Il y a des dragons de mer, des dragons désert, des dragons de ci, puis de ça. La Bible mentionne des grandes bêtes comme ça, gigantesques. Et c'est des mots qu'on appelle, un nom d'animal qu'on appelle en hébreu « tanin ». Alors c'est un grand, et donc certains dinosaures, il y a plusieurs, 3-4 000 ans, vivaient encore à différents endroits, et on parlait de tanières où il y avait des dragons, des dinosaures, des choses comme ça, qui existaient encore à cette époque-là. Là, je viens d'ouvrir une petite canne, vous dites, ben, je m'en vais pas dans cette direction-là, OK? On en parlera des dinosaures une autre fois, si vous voulez, ça va me faire plaisir, OK? J'ai plein de prédications sur les dinosaures et la Bible, il n'y a pas de problème, mais là, pas ce matin. Et donc, c'est une grosse tanière, tu nous écrases là-dedans, donc, comme pour un animal qui soit mangé par un gros monstre, OK? Il dit... Et tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Mais c'est à cause de toi que nous sommes égorgés tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et on va y revenir ici. Là. Il y en a une transition et il termine avec les quatre derniers versets de cette façon-ci, par une prière. Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? On a l'impression d'entendre les disciples, hein? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur, à dormir? Là? Il y a une tempête! Oh, oh, oh! Je te parle, là! Je te crie à l'aide, là! J'ai des problèmes! Réponds-moi! Je suis un enfant obéissant, Seigneur! Puis là, je souffre! Tu t'en fous pas? Seigneur, je suis ton enfant! C'est ça! Réveille, Seigneur! Tu dors, là! Et le mot qui est là pour dormir, qu'il utilise, c'est le même mot que quand il a endormi profondément l'homme pour sortir la côte et faire la femme. Dieu l'a endormi pour l'opérer. Fait qu'on s'attend, c'est un bon sommeil, là, tu sais. C'est un bon sommeil. En tout cas, t'espères être bien endormi si on t'enlève une côte, tu sais. Idéalement, fait que ça veut dire ça. Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi! Ne nous repousse pas à jamais. Le même mot qu'on a repoussé ici, là, il est au verset 10 aussi, ce mot-là. Pourquoi caches-tu ta face? Tu la faisais briller avant, là, en nous délivrant, puis là, tu nous caches ta face. Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Il est chapitre 42, 43, juste avant. Hein? Mon âme est abattue. Pourquoi t'as battu mon âme? Hein? Il y a un lien ici, c'est le même auteur en passant. Okay? Je fais chapitre 42, 43, qui fait comme un seul psaume. Là. C'est le même vocabulaire, même auteur ici. Notre âme est abattue dans la poussière à cause de ça. Notre corps est attaché à la terre. Quand on dit qu'il rampe à terre, c'est attaché. Là. Comme un homme est attaché à sa femme, c'est le même mot. Il est attaché, il est collé à terre. Là. Il se tire dans... Il n'arrive même pas à se lever tellement qu'il est à terre. Lève-toi. Lève-toi, Seigneur, pour nous secourir. Délivre-nous. À cause de ta bonté. À cause de ta bonté, Seigneur, délivre-nous. On vient de lire la Bible, on va prier le Seigneur. Okay? Seigneur, on vient de lire ta parole, on vient de lire un psaume d'un homme, d'un peuple qui souffre et qui exprime, Seigneur, et certainement il y a beaucoup de mots et de choses là-dedans qui nous ressemblent à ce qu'on vit aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à communiquer avec justesse ta parole et que ta parole nous parle, Seigneur, ce matin. Je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on a lu le psaume, mais comme vous pouvez voir, la vie n'était pas facile. Et le psaume décrit et exprime le côté difficile de la vie chrétienne, avec des vraies difficultés, des vraies souffrances et des mots pour l'exprimer dans ce passage. Et ce passage est découpé, et je vous donne le plan pour commencer, pour être sûr qu'on comprenne bien le contenu. Et j'ai intitulé « Gérer le sentiment de rejet ». Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais voici, la plupart des auteurs, une des choses, quand on prend un psaume, on essaie de voir un peu les idées et les regrouper, okay, pour comprendre la suite d'idées que le psalmiste nous communique. Et donc, ça prend un petit peu de temps de lire, essayer de voir un peu où est-ce qu'il y a des mots de transition, comme le verset 9, je l'ai dit tantôt. Cependant, verset 10, oh là, il y a un changement de ton. OK, on va le noter. Puis, tu prends, par coup, là, tu prends des notes, OK, il y a de l'air à dire ça dans ces versets-là. Et j'ai les regroupé pour vous d'une manière où ce que l'ensemble des commentateurs que j'ai consultés, j'en ai vu, checké une vingtaine, ils voient toute la même chose essentiellement. Le contenu est clair. Donc, généralement, beaucoup de psaumes sont comme ça. On passe à travers, on peut voir regrouper les idées. Et dans les versets 1 à 9, on a la délivrance passée de Dieu. Puis dedans, il y a une partie où ce qui dit, « Seigneur, je me rappelle, mon père m'a raconté ça, ça, t'as fait ça, ça, ça. Mais là, Seigneur, fallait parmi nous aujourd'hui, là. Puis on te loue d'avance pour ça, puis tout ça. » Mais là, il dit, « Par contre, et là, ça change de teneur en contraste, c'est déroutant quand ils regardent la situation présente. Ils ont une détresse présente très difficile. Elle est là. Elle est dans leur face. Tu peux pas l'éviter. Puis c'est comme, elle est radicalement différente de la première partie où ce que Dieu a fait des belles choses qu'ils sont reconnaissants pour. Mais là, c'est pas ça que je vis, Seigneur. Fait que là, le présent, il est déroutant. Il me rend confus. Je suis un peu mélangé. Je me sens comme, Et donc, versets 10 à 17 expriment le présent désastreux qu'ils vivent. Et les versets 18 à 22, ils expliquent un peu l'examen de conscience qu'il fait. Il dit, fais le tour, là, puis il n'y a pas de l'air à avoir rien là, qui traîne. Là. Péché, checké, puis oui, je suis un pécheur, mais en même temps, j'ai pas rien que j'ai négligé. Là, puis j'entretiens ma relation avec Dieu, je vois pas ce qui traîne, là, puis qui pourrait faire que je suis en train de récolter ce que j'ai semé. Là. Donc, il fait de l'introspection, puis il pose des questions. Pourquoi? Même pourquoi aussi qu'on retrouve dans le chapitre précédent, aussi où ce qui parle, son âme est abattue, puis il pose des questions comme pourquoi. Et il termine avec une prière. Malgré, à cause du passé, même si le présent il est déroutant, puis il ne comprend pas, c'est désastreux le présent, il veut anticiper le meilleur avenir, et quand même il termine, et c'est un geste de foi, en priant le Seigneur. Mais il prie assez franchement, réveille-toi. Tu te dis ça au Seigneur? Réveille-toi, Seigneur! Et il trouve le courage de dire franchement ce qu'il ressent. Il a l'impression que Dieu l'a largué, l'a repoussé, l'a abandonné. Puis dit, Seigneur, réveille-toi, on dirait que tu ne vois rien de ce qui se passe, tu t'es endormi. Mais il demande quand même l'aide du Seigneur à la toute fin dans cette prière, d'intervenir. Vous avez là un résumé général. Et la première étape lorsqu'on étudie un psaume, c'est ça, on veut le lire, puis le relire, puis essayer de trouver un peu, à remettre les idées un derrière l'autre pour comprendre le message. Okay? C'est la première étape. Bien observer et suivre la suite d'idées, la structure qu'il y a dans ce psaume. Et à travers cette structure-là, généralement, on va trouver des versets vraiment clés. Okay? Et il y en a deux, trois que j'aimerais vous partager. Le premier, c'est le verset 10. Où ce que là, on a une transition radicale, et je l'ai mentionné, et j'aimerais m'attarder aux mots qui sont utilisés. Il dit, cependant, tu nous repousses, tu nous as rejetés. Là, ici, c'est pas que tu nous as abandonnés. Ici, quand tu abandonnes quelqu'un, c'est que tu le laisses là, puis tu t'en vas. Là, il dit, tu nous as pas juste laissé là, puis tu es parti. En fait, tu nous as repoussés, tu nous as rejetés, Seigneur. C'est dur. Et il va le répéter un peu plus loin au verset 24. Tu nous as rejetés. Et là, en plus, tu nous couvres de honte. Comment ça s'exprime, tout ça? Dans le fait que Dieu n'est pas présent. Tu ne sors pas avec nous aux autres. Mais c'est sûr, il nous a repoussés. Fait qu'il n'est plus avec nous. Fait qu'il n'est pas là quand on est dans un combat. Puis à cause de ça, on a perdu une bataille ou on a perdu des batailles. Puis ça va pas bien. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont des prisonniers. Il y a des gens qui sont vendus comme esclaves. Et là, c'est le fruit du fait que Dieu nous a repoussés. Puis si tu nous as repoussés, tu nous couvres de honte. Le même tu qui avait fait des belles choses dans les premiers versets, là. Difficile à gérer. Et comme j'ai mentionné tantôt, cette introspection-là aussi, où ce que là, en lisant ce verset-là, on voit que, à quelque part, c'est possible que le peuple de Dieu puisse s'évaluer et se trouver pas coupable devant quelque chose de difficile qui arrive. Et de le clamer. Job le fait. Il est effectivement innocent. Ce n'est pas à cause qu'il avait fait quelque chose que des choses difficiles se passaient. Et le psalmiste fait ça, il évalue. Et donc, c'est possible. Ça arrive, ça. Et il faut l'accepter. Des fois, il y a une place pour dire, j'ai évalué, j'ai prié, j'ai checké, mais il n'y a pas rien, Seigneur. Là. Fait que ça n'a pas l'air lié à moi, mais mon comportement. Et c'est un travail qu'il faut faire, s'examiner. Le Seigneur nous invite dans la parole de Dieu à nous examiner dans une situation difficile. Pas s'en affliger, mais s'examiner. Et voici un exemple où on voit qu'il est possible de s'évaluer, de se trouver finalement que ce n'est pas en raison de notre comportement. Souvent, nous sommes dans des situations et savoir être coupable de manquer avoir envers Dieu. On est dans une situation, mais on sait qu'il y a ça, il y a ça qui traîne, il garde, j'ai récolté, etc. Mais l'Église de Dieu, souvent dans le monde, vit des persécutions et ce n'est pas lié à un jugement du tout. Il y a juste des choses terribles qui arrivent sur terre et ce n'est pas toujours lié à notre comportement. C'est une réalité. Et ces versets-là nous disent, hey, c'est possible, ça arrive, ça. Fait que faisons attention aussi quand on est en train d'évaluer les autres et dire, j'ai rien fait, je comprends pas. Pose-toi pas la question, là. Ouais, mais il y a sûrement quelque chose de caché, là. Puis c'est facile de tomber là-dedans. Donnons le bénéfice du doute. On voit des endroits où ce que ça arrive pour de vrai et que c'est correct. Autre chose, pour essayer de comprendre tout ça, au verset 23. La fin de la deuxième section aussi. Oups, on a devancé mon PowerPoint. On va le reculer, merci. Autre chose, verset 23, qui donne l'explication en fait. Il donne, c'est un verset clé, il dit, « Mais c'est à cause de toi. » Souvenez-les ça, c'est un mot important. Il donne la cause, on cherche la cause, il pose des pourquoi, il s'examine, c'est à cause de toi. Fait que déjà, il faut souligner ce petit mot-là, c'est clé. « À cause de toi, Seigneur, que ça se passe. » Il n'explique pas le détail du « à cause », mais c'est à cause de toi, c'est de ta faute. Parce qu'il a dit, tu fais ça, puis là, tu fais ça maintenant. Fait que c'est lié au Seigneur. Ça ne nous explique pas pourquoi le Seigneur fait ça, mais il dit, c'est lié au Seigneur. Et ça, c'est un verset important à comprendre pour avoir des pistes de raisonnement pour analyser notre psaume. OK? Alors, deux versets importants, je vais revenir avec d'autres choses après. Maintenant, prochaine étape, on va essayer de trouver, voir s'il y a des mots-clés qui pourraient nous aider à comprendre. Et c'est sûr qu'il y a un mot qui est là que j'ai trouvé intéressant, prochaine diapo, et c'est le mot « rejet » qui est là. Et comme je l'ai dit, c'est un mot fort qui parle du fait que c'est pas l'idée qu'on est abandonné, que Dieu se tasse de où ce qu'on est, c'est vraiment qu'il est là, puis lui, il te pousse de où ce que t'es, puis « je veux pas de toi ». C'est fort. Et le mot « rejet », il est important parce que beaucoup de gens luttent avec le sentiment d'être rejetés. Beaucoup de gens ont vécu ce sentiment qu'on ne les a pas juste largués, que des fois, on les a vraiment juste tassés complètement. On ne les voulait pas d'un genre. J'ai entendu parler d'une histoire dernièrement d'un beau-père là, qui partait en voyage avec sa famille et qui a mis de côté la belle-fille rejetée, tu sais. Et je suis certain que si on levait la main ici, il y aurait plein de témoignages de gens qui ont vécu des rejets. Beaucoup dans la famille, au travail aussi, dans d'autres situations. Et ça fait mal. Ce sentiment, non seulement qu'on s'est juste tassé nous, non plus que ça, on nous a tassés pour que la personne reste sur place. On ne veut pas d'ingendre. Et là, le mot qu'il utilise ici, il est fort. Dieu nous a repoussés, il nous a rejetés, il nous a tassés de sur place. Yeah! C'est pas pour rien après ça qu'il dit, réveille-toi Seigneur. Parce qu'il y avait vraiment le sentiment que Dieu n'écoutait pas, que c'est un rejeté tassé, que Dieu ne veut même pas écouter, qu'il n'y a pas d'importance pour lui, il se sent comme ça. Et la raison, on le voit par les versets qui suivent. Il n'est pas utilisé souvent ce mot-là. Et dans les 20 fois utilisés dans l'Ancien Testament, 10 fois, c'est dans les psaumes. Utilisé par David, utilisé par les fils de Corée, utilisé par 4-5 différents auteurs. Mais entre autres, celui-ci, qui l'utilise même au chapitre précédent, je vous lis les deux fois les plus proches. « Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu? » Alors, l'idée, pourquoi tu me rejettes? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression? Donc, quand on est rejeté, on vit le fait qu'on a plein de problèmes avec tout le monde puis il n'y a personne pour nous aider. Puis Dieu s'en fout. Et il sentait ça là, dans le psaume 43 aussi. Psaume 60, qui lui est de David, il exprime, « Ô Dieu, tu as repoussé, tu as rejeté, dispersé, tu t'es irrité, relève-nous, que c'est Dieu qui les a rejetés encore là aussi. » David a ressenti ça aussi dans des moments de sa vie. On pourrait dire, bon, mais dans certains cas, David, ça serait justifié dans cette histoire-là du chapitre 60, c'était pas lié au fait qu'il avait fait nécessairement quelque chose de mal. Et c'est un sentiment très présent et souvent difficile à gérer avec. Regardez un autre d'autres usages qui a été fait un peu plus loin. Prochaine diapo. J'en ai sorti deux où il y a de l'espoir tout à coup dans le rejet. Dans Lamentations, chapitre 3, verset 31. C'est un livre qui touche la souffrance qu'on s'est infligée à soi-même. C'est que si vous êtes dans le péché, que là vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'espoir parce que vous le méritez bien en plus les conséquences que vous vivez, bien là c'est le livre pour lire. Lamentations. Là, vous pouvez vous lamenter beaucoup sur votre sort. Puis après ça, avoir une réflexion à plein milieu pour vous faire réfléchir, puis tranquillement vous faire cheminer pour dire, il y a peut-être de l'espoir dans ce que je me suis infligé. Je le mérite. Aide-moi, Seigneur, à le prendre comme il faut. Puis, ma vie n'arrête pas là. Elle n'arrête pas avec cet échec-là. Il y a quand même quelque chose pour l'avenir. Le livre de Lamentations, 5 chapitres, si vous êtes dans cette situation-là, c'est une bonne lecture sur la souffrance à lire. Et là, au milieu de cette souffrance-là, il dit, car le Seigneur ne rejette pas pour toujours, ça s'arrête pas là. C'est pas parce que tu vis un rejet, puis que ce serait justifié, parce que tu as fait ci, ci, ça. Et là, on parle pas ici de tout le détail de la justification de tout ça. Il fait pas pour toujours. Donc, c'est pas une fin en soi. Ça s'arrêtera pas là, mon ami. Tu te dis, ma vie est foutue, je suis divorcé, ou j'ai été pogné avec un vol au travail, ou on m'a donné une réputation, ou il s'est passé ça dans ma vie. La vie s'arrête pas là. OK? Il ne repousse pas à toujours. Et Zacharie, chapitre 10, verset 6, il dit, « Je fortifierai la maison de Judas et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. » Fait que c'est pas parce qu'on aurait vécu un rejet mérité, mettons, OK? Puis là, je parle juste en faisant des affirmations qui sont pas prouvées ou rien, là. On spécule. Mais qu'on le mériterait, c'est possible d'être restauré de tout ça. Ça s'arrête pas à ça. Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. De vivre un sentiment de rejet, mérité ou non ici, on touche pas au mérite de tout ça. Dans ces cas-là ici, c'était du mérite. La vie s'arrête pas là. On peut espérer, même si j'ai mérité des conséquences. Il y a de l'avenir encore, lié ici à Dieu, et qu'il exauce, et qu'il entend. Il s'en fout pas contrairement aux sentiments qu'on a dans ces situations-là. Je suis pas quelqu'un qui a eu à lutter beaucoup avec ce sentiment-là. Chaque personne est différente, hein? Et certains vont être plus enclins à lutter avec ce sentiment-là que d'autres. On a chacun des luttes différentes, des tempéraments différents. Je ne peux pas dire que j'ai souffert beaucoup de ça, mais j'ai entendu tellement de gens avec qui j'ai prié et entendu ressentir ces sentiments-là et exprimer exactement les mêmes choses. Et qui se demandent, y a-t-il de l'espoir? Et certains vont aller à considérer le suicide parce que dans la situation qu'ils arrivent, qu'ils sont découragés, ils ne voient pas une solution. Ils se voient maudits de Dieu. Découragés, ils se disent, ben autant en finir là, de toute façon, le reste de ma vie va être une souffrance à cause que j'ai fait ça ou que j'ai fait ci, et décident de mettre fin à leur vie. Et ici, on nous dit, le Seigneur ne rejette pas toujours, ce n'est pas une fin en soi, il y a encore de l'avenir, même si on n'a pas toutes les réponses ici, qu'on ne sait pas tout ce que ça veut dire, le choix de Dieu de m'avoir repoussé, ou si c'était justifié, ou si c'est correct que Dieu, y a-tu le droit de rejeter, le Seigneur, on ne touche même pas encore. Mais on voit ici qu'il y a de l'espoir. Et ce n'est pas une fin en soi. Ensuite, pour nous aider à comprendre, prochaine diapo. Quand on veut comprendre les psaumes, puis des fois on n'est comme pas clair sur quel pied danser pour l'analyser et comprendre, une des bonnes choses à faire, c'est de retourner dans le psaume 1 et 2. Le psaume 1 et 2, c'est comme l'introduction au psaume, c'est plus que juste des psaumes. C'est comme la base théologique et le vocabulaire de base pour nous aider à comprendre le reste des psaumes. Le psaume 1 qui nous parle de l'homme juste et de l'homme méchant et de leur destinée et comment un est béni puis comment l'autre va être fini à la fin. Et le psaume 2 qui touche l'aspect d'un roi qui s'en vient, qui va être béni, mais c'est le Messie qu'on rit de lui. Il y a une guerre cosmique entre Dieu et son oint et le monde qui veut le rejeter. Et là, ce qui est décrit sur ce oint-là, et on le voit cité, le psaume 2 dans le Nouveau Testament, qui ça parle de Christ en réalité. Et donc, c'est un psaume messianique de royauté. Ces deux psaumes-là servent vraiment de base pour nous aider à comprendre. Et quand on lit le psaume 1 et 2, tout à coup, là, on réalise avec le verset 23 qu'on a lu, « À cause de toi, Seigneur. » C'est pas lié à moi, c'est à cause de toi, et c'est parce que je t'appartiens. Mais les gens, ils t'aiment pas. Ils veulent se débarrasser de toi. Et donc, tous ceux qui t'appartiennent, ben, ils ont des dommages collatéraux de tout ça. Ils subissent le rejet de Dieu. Ils subissent le rejet du oint de l'Éternel, c'est-à-dire le Fils, le Christ. Et donc, ceux qui croient en lui, inévitablement, ils ont toujours des dommages collatéraux qui viennent avec. Et donc, il dit, on a lu le verset 23 tantôt qui parlait du fait que, mais à cause de toi, on est égorgé tous les jours, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, et on lit justement qu'il y a une lutte des rois de la terre contre le Seigneur et contre son Messie. Et le psaume 2 nous rappelle continuellement, quand il nous manque des explications, hey, il y a une guerre qui est là, avec l'aspect de rejeter Dieu, de rejeter son Fils dans le monde. Et quand tu décides de croire en lui, ben, il va arriver des belles choses, puis il va arriver des mauvaises choses. T'es sa terre. Il pleut sur les bons comme sur les méchants. Et Dieu ne les exempte pas de tout ça parce qu'on devient enfant de Dieu. Et le fait qu'on croit en lui, mais à cause de tout ça, il y a des dommages qui arrivent dans nos vies parce que les gens rejettent le Christ. Donc, si on croit en lui, on va vivre des choses difficiles liées à ça. Puis des fois, on le comprend pas, mais c'est juste le fait de qui on est qu'on le vit. Et qu'une partie de l'explication se trouve en comprenant le psaume 1 et 2. Donc, des petits mots-clés qui nous aident à comprendre le message, qui nous aident à comprendre ce qui se vit ici, qui nous amènent à voir quelques autres versets ailleurs pour nous éclairer. Ensuite, le psaume 1 et 2, qui nous aident à voir ici le sens, si on a perdu le sens, parce que le psaume 1 et 2 nous donne une base théologique sur laquelle réfléchir, sur laquelle le reste des psaumes se construit. Ça nous aide à avancer et comprendre. Ensuite, une quatrième étape. Il y en aura une dernière, cinquième après ça. Comprendre son message et ses applications. Parfois, quand vous regardez sur la page, sur le côté gauche ou droite de votre Bible, vous allez voir des versets qui sont écrits à côté. Des fois, c'est des versets qui parlent de ce verset-là ailleurs ou du même sujet. Et quand on est dans l'Ancien Testament, souvent, il y a des versets sur le côté droit qui nous dirigent vers un endroit dans le Nouveau Testament où on cite ce verset-là. Le même verset qu'on est à côté. Si vous regardez dans votre Bible, à côté du verset 23, vous allez découvrir que le verset 23 et les sentiments qui sont vécus là, dans ce contexte-là, sont cités par Paul dans le Nouveau Testament. Mais la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte de ça. OK? Et probablement, la majorité d'entre nous ne savait pas ce matin que Romains chapitre 8, Paul cite le psaume 44 qu'on vient de parler. Et là, tout à coup, des paroles qu'on connaît bien dans le chapitre 8 vont faire un nouveau sens. OK? Fait que pour comprendre l'application de ces versets-là, on va regarder Romains chapitre 8. On va regarder ensemble, prenez votre Bible, vous pouvez le suivre avec moi si vous n'avez pas votre Bible ou que vous suivez sur un écran avec le texte devant vous. Et là, vous allez voir Paul qui utilise cette vérité-là dans un contexte de la vie chrétienne. Et là, on va comprendre encore plus. Là qu'on comprend bien le psaume 44, on est en mesure de vraiment mieux comprendre l'usage que Paul en fait et Paul l'utilise pas pour rien, ce psaume-là. Il y a une raison. C'est parce qu'il se ressemble le sujet qu'il va discuter. Je vous commence à partir du verset 28 pour vraiment comprendre le contexte des paroles que des fois on galvaude et que là on veut apprécier davantage. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, on le sait. OK? Je vous entends tout le dire. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui l'ont connu d'avance, ceux qui ont été élus dans le fond, ils ont été aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs, et ceux qui ont été prédestinés parce qu'ils se sont convertis et qu'ils ont été prédestinés à des œuvres pour Dieu, ben ceux-ci qui sont prédestinés, ils ont été aussi appelés. Et ceux qui ont été appelés, ben ils sont aussi justifiés. Et ceux qui sont aussi justifiés, ben à la toute fin, ils seront glorifiés. Ça va jusque-là. C'est dans le contexte des paroles « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » qu'on cite ce passage-là. Donc, des petites questions. Paul dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et tout ce qui a été dit là. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il va donner une petite affaire, puis il va nous empêcher d'avoir le reste. Non, il nous donne le deal au complet. Il va jusqu'au bout. Qui accusera les élus de Dieu? En parlant de l'oppression qu'ils peuvent vivre, puis là, j'ai des comme ci, des comme ça. C'est Dieu qui justifie. Fait que c'est lui qui rend juste. C'est notre avocat. Qui les condamnera? Premièrement, Christ est mort. Deuxième, bien plus, il est ressuscité. Et en plus, il est à la droite de Dieu pour nous défendre. Et il intercède pour nous. Fait que qui va pouvoir les accuser? Qui va pouvoir les dire, ah, c'est des ci, des ça, des chrétiens, puis nous... Non, on est en Cadillac, les amis, si on a cru en Jésus-Christ. Dieu a pris soin de toute notre protection. Il n'y a rien qui lui échappe. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Par le sacrifice de Christ, tout est approuvé et fait en fonction que ce qui a été commencé va être complété, au complet. Il ne nous laisse pas avec un petit début, puis il nous plante en chemin. C'est pas comme ça que le Seigneur. Et donc, qui nous séparera, prochain, de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation peut-être, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Et toutes ces choses difficiles de la vie, c'est toutes ces choses-là qui vont nous séparer de l'amour de Dieu, puis qu'on va se sentir rejeté, dans le fond. Hein? C'est toutes ces choses-là qui vont faire que finalement il y a un gouffre, puis on ne peut plus en bénéficier. Il a commencé quelque chose, mais il ne finira pas, le Seigneur. Selon qu'il est écrit, et là, il cite notre verset. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Fait peut-être des croyants ont des doutes, c'est ça qu'ils vivaient. Puis ils disaient, peut-être le Seigneur, tu sais, s'est séparé de nous, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi on peut être vainqueur même dans cette souffrance-là? Par celui qui nous a aimés. On l'a chanté, celui. L'amour de Dieu, tantôt, on l'a mentionné, qui nous aime. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, on a fait une liste des choses tantôt qui pourraient nous séparer. Dis-moi, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, les profondeurs, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si on comprend bien le psaume 44 et les paroles que là Paul vient mettre ici, de devant des sentiments que les croyants vivent. C'est une expérience réelle du croyant, de vivre ces sentiments du psaume 44. Il les amène là. Il dit, c'est des vrais sentiments. C'est des vraies attaques liées au fait qu'on a été appelé, qu'on a été élu de Dieu, qu'on est prédestiné, tout ça. Mais Dieu a tout fait pour qu'on ne soit pas laissé en plein là. Ça ne s'arrête pas là. Et il n'y a rien, malgré les doutes qu'on peut avoir, qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est hyper important. En attendant que je n'ai pas de réponse, en attendant que j'entends Dieu peut-être faire quelque chose, pendant que j'ai l'impression qu'il dort, Paul est en train de dire, je veux que tu saches une chose en tout cas. Tu n'as pas été séparé de l'amour de Dieu. Tu n'es pas séparé. Dieu ne t'a pas largué. Tu peux peut-être ressentir ça. Mais Dieu ne t'a pas largué. Et peut-être c'est ce que vous vivez ce matin. Vous vous sentez dans cet état-là, et Dieu a besoin de vous rappeler ce matin et vous dit, même si tu te sens rejeté de moi, même si tu sens que j'ai plus rien à faire avec toi, tu es une cause perdue, que tu as fait tel péché et qu'il n'y a plus rien à faire avec toi, que tu n'as plus de témoignage parce que tu as fait ça, que toi tu as fait tel péché que personne ne sait, si je savais ça, je suis fini. Rien, si tu es son enfant, ne peut te séparer. Même si tu te sens rejeté présentement et que tout autour de toi semble un argument pour légitimiser ta pensée et dire que tu as raison dans ton analyse. Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il n'y a rien qui nous sépare de son amour, même si tu ne le ressens pas pour l'instant. Si tu ne le ressens pas pour l'instant, on va aller dans une autre étape, avant de terminer. Et donc, le quatrième point, c'est comprendre son message, et souvent, dans les psaumes, il y a un verset qui est cité à quelque part qui peut nous aider. Pas toujours, mais souvent. Et ça, c'est une piste pour nous aider à comprendre le verset, comment il a été compris par l'auteur du Nouveau Testament et de l'appliquer comme il faut. Et là, en plus, Paul vient nous lier avec toute l'œuvre de Christ qui est faite, qui vient tout amener une différente optique là-dessus, que rien ne peut nous en séparer. Dieu est vraiment souverain sur nos vies, comme le peuple de Dieu. Comme peuple de Dieu et comme individu. Donc, prends responsabilité pour les choses difficiles aussi qui nous arrivent. Il a fait des choses belles. Il y a des choses qui permet qu'elles ne sont pas belles. Il dit, tu, dans les deux cas. Dieu les assume. Il est en train de nous expliquer ici, par exemple, ça ne touche en rien le fait que tu es séparé de mon amour. Ça touche en rien le fait qu'on a une relation ensemble. Ça ne veut pas nécessairement toujours dire non plus que tu as un péché dans ta vie, parce que ça ne va pas bien. Et dans le Nouveau Testament, certains versets aussi nous rappellent ces vérités-là. Et je passe à la prochaine diapo. Deux exemples de cette vérité-là. Dans Matthieu, quand il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » On trouve super beau ce verset-là, mais honnêtement, on veut pas trop le pratiquer. Hein? À cause de moi. Vous voyez le lien? C'est pas à cause qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais on peut être heureux quand on sait qu'on n'a pas rien fait de mal, puis qu'on comprend que c'est à cause de Dieu, et on peut garder notre bonheur dans cette situation-là. Et Jésus nous avertit que ça arriverait. Il le dit à ses disciples dans ses derniers moments. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, le côté négatif, le côté positif de suivre Jésus. Il y en a qui vont croire qu'on va leur parler de Jésus. Il y en a qui vont nous persécuter, tout comme ils ont persécuté celui en qui on a cru. Si celui en qui j'ai placé ma foi a souffert, injustement, ne serait-il pas naturel que celui qui le suit souffre aussi, sans qu'il ait fait de mal? Prochaine diapo. Et donc, la dernière étape, c'est de voir comment est-ce que je comprends ça en relation avec le Messie, avec Jésus-Christ. Deux passages de l'Ancien Testament qui utilisent un mot similaire. Dans le psaume 118, c'est le même mot. Dans l'Ésaïe, c'est un mot qu'on utilise des fois dans les psaumes, dans la même phrase, comme un synonyme. Okay? Et chose intéressante, on dit la même chose que le Messie a vécu le rejet. Ésaïe 53 nous le dit, le psaume 118, verset 22, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » On nous dit que le Christ, Jésus, a vécu le rejet des hommes. Il a été pas juste largué par ses disciples, il a été repoussé, même Pierre le renier trois fois, en sacrant à part de ça pour donner de la crédibilité à son repoussage de Jésus. T'sais? Il a mis tout ce qu'il fallait comme décoration pour montrer qu'il était sérieux. Là. Je veux vraiment rien à faire avec lui. Jésus a été rejeté. L'histoire de Pierre, c'est un exemple personnel, mais ces deux versets nous montrent Jésus et son rejet. Maintenant, Jésus aussi, prochaine diapo, l'affirme lui-même aussi. Il a déclaré, il prend exactement ses paroles à trois reprises dans les évangiles et dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale. » Rejeté ici, ce mot-là est utilisé juste 9 fois dans le Nouveau Testament, 8 fois en relation avec ce que Jésus a vécu pour nous. Une fois, ça a rapport avec Ésaü, une longue histoire. C'est l'idée que on a été mis à l'épreuve, on a vraiment checké comme vous, qui était là, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'est-ce qu'il valait, puis tout ça, puis on l'a rejeté quand même, après vérification. C'est un rejet d'avoir repoussé quelqu'un après l'avoir éprouvé. C'est ça l'idée du mot. Et la pierre était là, ils l'ont examinée, puis ont dit, on n'en veut pas. Jésus le savait. Il avait lu l'Ancien Testament. Il savait son rôle. Et il répète à ses disciples pour pas qu'ils soient surpris. Et trois fois, il va mentionner ceci. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, ainsi de suite, et qu'il vienne à mourir. Il savait qu'il allait devoir aller là. Jésus a été rejeté. Il l'a confirmé lui-même. Mais voici la solution. Le rejet de Jésus est la seule solution. Pierre nous dit ceci, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. » Sans avoir d'explication sur le pourquoi, sans comprendre le détail de l'explication, de la justification, et en ayant en tête qu'il y a un combat cosmique qui est là et que moi, je me trouve du côté de ceux qui vivent des fois des dommages collatéraux que je crois en Jésus. Je ne comprendrai pas toujours pourquoi je vis des choses difficiles puis que Dieu les permet. Parce que j'ai lu certains versets qui m'aident à comprendre ça. Paul est dit, regarde, c'est pas compliqué là. Il n'y a rien qui va te séparer malgré tout de l'amour de Dieu. Fait que sois rassuré là-dedans que tu as l'amour de Dieu. Mais plus que ça, Pierre va plus loin, il dit, garde, approchez-vous de Jésus. Lui connaît le rejet. Il a été rejeté pour tes péchés. Il l'a fait volontairement. Et lui va te donner ce que tu as de besoin pour avancer sans toujours avoir toutes les réponses. Jésus est suffisant pour passer à travers ça. Pourquoi? Voici quatre raisons en terminant de cette dernière diapo. Quatre raisons pour s'approcher de Jésus comme solution liées à ces circonstances-là. Premièrement, parce que Jésus a connu le rejet et il vous comprend. Il y a un beau verset que je n'ai pas écrit, mais dans Hébreux, qui dit qu'il a vécu toutes les tentations qu'on a vécues. Il a connu ce sentiment-là de rejet sans avoir fait rien pour le mériter. D'être un enfant innocent, rejeté par un parent alors qu'il n'a rien fait de mal, qu'il a juste existé. Lui, il sait c'est quoi. Il peut comprendre. Deuxièmement, parce que non seulement il vous comprend, mais son rejet permet de régler ton rejet initial de Dieu, devant Dieu. On a rejeté Dieu à un moment donné. Mais le fait que lui a vécu un rejet pour nous, il nous permet de régler notre rejet de lui. C'est fou, hein? D'une certaine façon, on devrait célébrer le rejet. Parce qu'à chaque rejet, on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Mais lui, le fait sans être un pécheur dans ce monde, mais dans un monde pécheur, le fait volontairement pour moi. Il a été rejeté pour gérer mon sentiment de rejet, pour gérer mon rejet de lui. Jésus l'a vécu. Ça devait passer par là. Ironique, n'est-ce pas? Mais tout à coup, si je comprends que Jésus l'a vécu, que j'ai fait ça à Jésus, puis que Jésus, il s'est permis d'être rejeté par les êtres humains pour régler mon problème de rejet de lui, waouh! C'est incroyable, c'est le monde à l'envers. Celui qui était rejeté le fait pour régler notre rejet de lui. Et tout à coup, peut-être, Dieu peut utiliser cette réflexion dans mon cœur pour venir m'éclairer. Et dans mon rejet, juste de me tourner vers lui pour le remercier d'avoir passé par-dessus mon rejet puis d'avoir accepté d'être rejeté pour moi. Hein? Sans que je comprenne tout, juste de comprendre ça déjà. Hein, je peux cheminer. Ça peut changer la donne. Troisièmement, de plus, si tu es son enfant, son rejet a réglé à la croix tes péchés et te permet de vivre par lui, par son esprit, dans la victoire aujourd'hui, sans être contrôlé par le rejet des autres, tu peux dire non. Seigneur, je lutte avec le rejet. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, je te demande de rejeter ces pensées-là. Parce que c'est possible pour moi de vivre sans être contrôlé par ma lutte avec le sentiment de rejet. C'est possible pour moi. Tu n'es pas obligé de toujours être pris en réaction à ça. C'est possible par Jésus, parce qu'il a tout fait, la transaction au complet, qui permet la victoire. Et ça fait toute une différence. Ça fait toute la différence. Et finalement, il faut s'approcher de lui lorsqu'on se sent rejeté par lui. Car seulement lui peut nous rassurer que ce n'est pas le cas, qu'il m'aime. Car il est notre refuge et que celui a le pouvoir de nous sortir de notre situation douloureuse. Il te donnera les paroles pour t'encourager. Il te fortifiera et te nourrir ton espérance et confiance en lui. Peut-être tu as besoin d'espérance ce matin. Tu as besoin de confiance. Et juste lui peut parler à ton cœur et savoir comment le faire pour te rassurer que ce n'est pas le cas présentement, même si tu sens rejeté de lui. Peut-être une situation que tu vis et tu es en train de lutter avec ça activement. Pierre dit, approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Et lui va régler ça avec toi. Comment il va le faire? J'en ai aucune espèce d'idée. Je pourrais te faire une liste longue de même de comment il pourrait le faire, mais tu es unique. Il ne va pas le faire de la même façon qu'il le fait avec chose, qu'avec chose, qu'avec chose. Parce qu'on est unique. On est ses enfants. Il nous approche de manière unique. Et peut-être ce matin, c'est lorsque tu es, puis le Seigneur t'invite tout simplement de t'approcher de lui avec confiance. Avec une confiance qu'on retrouve même dans ce psaume-là. Il y a une confiance qui est exprimée malgré la confusion, malgré le sentiment qui est là. Il est possible d'avoir confiance, même dans nos doutes. Si on se tourne vers Dieu et qu'on s'approche de lui. Allons en prière ensemble pendant que les musiciens s'approchent et qu'on termine en chantant. Je vous invite à vous courber avec moi. On va s'approcher du Seigneur Jésus, comme Pierre nous dit de le faire. Approchons-nous de lui. Et peut-être ce matin, pour vous, vous n'avez pas un sentiment de rejet parce que vous luttez avec ça, mais peut-être que vous réalisez que votre rejet de Christ n'a pas encore été réglé, que vous n'avez pas commencé une relation avec Dieu, que vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu puis son Fils Jésus, et que ce matin, ça commence par ça. Peut-être c'est ça qu'il faut que tu fasses ce matin, que Dieu t'invite et que tu as un combat intérieur de lui céder ta vie. Et ce matin, le Seigneur te dit, approche-toi de moi puis abandonne-moi ta vie pour une première fois. Accepte de devenir mon enfant. Accepte mon rejet sur terre qui permet que tu puisses être pardonné de tes péchés. Et peut-être tu peux prier comme suit. Seigneur Jésus, je reconnais que mes péchés, ma vie, montrent que je t'ai rejeté, que je veux en être le maître de ma vie et que je veux la diriger comme bon me semble. Seigneur, je veux te demander pardon pour mes péchés parce que mes pardons amenés, je le comprends maintenant, que tu sois crucifié à la croix pour mes péchés. Ils ont amené ce crime odieux. Mais merci Seigneur, tu étais encore en contrôle quand tu as été crucifié. Et par ce sacrifice-là, il était possible, et je ne comprenais pas, que mes péchés soient pardonnés par toi. Parce que toi, tu étais innocent et moi non. Je veux croire en toi et accepter ton pardon à la croix. Je veux te demander pardon pour mes péchés et accepter ton pardon. Parce que tu peux le faire. Tu es ressuscité des morts, tu es le Dieu Tout-Puissant incarné en homme. Tu as la puissance de le faire et tu as montré par ta résurrection que tu étais capable. Je veux te faire confiance ce matin. Accepte-moi comme ton enfant, s'il vous plaît. Conduis-moi. Peut-être ce matin, vous luttez tout simplement avec ce défi du rejet dans votre vie. Le Seigneur vous parle ce matin sur différents angles, sans donner les réponses du pourquoi. Il vous donne des vérités qu'il vous parle ce matin. Parlez-lui. Dites-lui comment vous vous sentez. Racontez au Seigneur vos doutes. Exprimez vos sentiments. Il les comprend. Et il prend plaisir à vous entendre lui parler et les dire. Même si vous avez l'impression qu'il dort, il ne dort pas. Il a promis qu'il nous aimait, qu'il se débarrasserait jamais de nous, peu importe ce qu'on faisait comme ses enfants. Qu'il nous aime, qu'il y a encore des beaux plans devant nous, qu'il a pour nous. Et qu'il y a des bonnes choses à faire, c'est pas lié à qui je suis et ce que j'ai fait, c'est lié à lui. Parce que seulement lui peut faire de bonnes choses dans ma vie et produire en moi de bons fruits. Seigneur, je veux croire la vérité. Je te demande de chasser les mensonges dans ma tête. Je te demande que les vérités puissent descendre dans le fond de mon cœur, dans la lecture des Écritures, et qu'elles puissent se loger profondément dans les racines pour que je grandisse solide sur ces vérités, que je comprenne bien les Écritures lorsque je les lis. Que tu me parles. J'en ai besoin, Seigneur, ce matin. Je m'approche, Seigneur, faible, en besoin de toi. Rencontre-moi, Seigneur, parce que tu as promis que tu le ferais. Et je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.